Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre série consacrée au prix des mots s'achève aujourd'hui. Cette semaine, nous avons vu que le marché de l'édition se resserrait de plus en plus autour d'une poignée de titres qui raflent la mise. Nous avons observé l'émergence de l'économie de marché à travers le théâtre et le roman et cherché les origines sociales du génie littéraire. À présent, c'est l'entrelacement du langage et de la monnaie que nous allons examiner. Le mot, comme l'argent, repose sur la croyance dans la valeur du signe. Ne dit-on pas « deviser » ou « se payer de mots » ? Une réflexion qui nous emmène aux frontières de la philosophie et de la linguistique. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons discuter des points communs entre le langage et la monnaie en compagnie d'André Orléans, économiste, directeur d'études à l'EHESS et auteur de La monnaie entre violence et confiance avec Michel Alietta, paru chez Odile Jacob il y a déjà quelques années, en compagnie également de Yaël Dosquet, économiste, chercheur au Centre d'études des modes d'industrialisation à l'EHESS et enseignant à Paris 7. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour André Orléans et Yael Dosquet.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer cette émission, nous allons entendre un linguiste, Ferdinand de Saussure, né en 1857, extrait de ses écrits de linguistique générale.
On ne peut pas traiter un instant la langue sans s'occuper du son et des sons. Le changement des sons est un facteur capital et cela n'empêche pas que dans un certain sens, le son est étranger à la nature, etc. De même, par exemple, la matière qui entre dans une monnaie n'est pas une chose dont on ne puisse s'occuper, mais ce serait une grosse erreur de croire que c'est là ce qui constitue cette monnaie. La valeur linguistique sera comme la valeur d'une pièce de 5 francs. Cette valeur est déterminée par une foule d'autres choses que le métal qui y entre. À l'heure qu'il est, cette pièce vaut le quart d'une pièce de 20 francs, mais d'après le métal, elle ne vaudrait que le huitième si cette pièce, ensuite, exactement avec la même qualité, porte telle effigie ou une autre. Cette valeur est une chose incorporelle. Or, de même, il faut se représenter les mots pour être dans le vrai, comme des unités incorporelles.
André Orléans, que vous inspire pour commencer ce texte, lu ici par Antoine Beauchamp et dans lequel Ferdinand de Saussure nous dit que la monnaie, comme le langage, sont des signes arbitraires?
Je pense que c'est tout à fait judicieux. Et en particulier l'idée qu'il met en avant selon laquelle la substance, comme la substance des mots serait le son, la substance de la monnaie serait le métal. Avec cette idée que on a ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que ce sont des substances, mais pour autant ce n'est pas la raison, ça n'explique pas la valeur de ni de la monnaie, comme les sons n'expliquent pas la valeur des mots. Donc il faut arriver à articuler, c'est ce qu'il nous dit, il faut arriver à articuler deux dimensions qui en effet que les pièces de monnaie sont faites d'un certain métal ou d'autres choses, mais que la valeur qu'ils ont ne se réduit pas au métal. Et il prend cet exemple d'une pièce, par exemple, vous aviez des pièces rognées, utilisées depuis longtemps, donc qui n'avaient plus le même poids de métal que le poids officiel, et pourtant elles circulaient à la même valeur faciale. Donc il y a bien un découplage entre le substrat métallique et la valeur de la monnaie. Alors c'est important à le dire parce que c'est une idée, même si maintenant on n'utilise plus de pièces métalliques, il y a cette idée qui restait très longtemps, et d'ailleurs pour partie propagée par les économistes, selon laquelle la valeur de la monnaie serait dans la valeur de sa substance. Et en fait, c'est deux processus très différents, comme, semble-t-il, nous le dit Saussure, pour la langue.
Et alors c'est intéressant, Yael Dosquet, de voir que Saussure va s'appuyer sur la théorie économique pour expliquer la linguistique.
Oui, en effet, Saussure était très fasciné par la théorie d'équilibre général de Walras. L'ironie du sort voudra que Walras, lui, était fasciné par la théorie du mathématicien Poincaré. Donc on est en quelque sorte dans un système un peu à la Andromaque, si on se place du point de vue des savoirs linguistiques, économie et mathématiques.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien que Poincaré, lui, pour le coup, il envoie une sorte de fin de non-recevoir à Walras. Hein. Bon, c'est des travaux pas intéressants. Mais chez Poincaré, le fait qu'un théorème soit intéressant ou pas, ça a une portée considérable au niveau épistémologique. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, en effet, chez Saussure, on trouve cette analogie signifiant-signifié, valeur-travail, qu'il développe dans un texte qui s'intitule « Dualité interne de toutes les sciences opérant sur les valeurs ».
Et cette décorrélation, effectivement, est intéressante. Ce qu'on voit, c'est que Saussure n'est pas le premier à estimer que la monnaie est un signe, voire une forme de langage. André Orléans, vous qui avez énormément travaillé sur la monnaie.
Oui, c'est une idée très, très classique. La comparaison de la monnaie et du langage est une idée vraiment très classique qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, chez beaucoup d'auteurs. Mais il faut la prendre à un niveau très général, dans le sens où on peut dire que la monnaie fonde une espèce de langue qui est la langue des prix. Donc quand on fait des échanges, on utilise cette langue qui est une langue des prix. Donc c'est le premier motif de comparaison. Deuxièmement, elle donne lieu à des échanges de biens comme la langue donne lieu à des échanges d'idées. Donc et troisièmement, elle est conventionnelle. Les deux systèmes sont conventionnels. Donc il y a une espèce, je dirais, un niveau assez général, même très général. On ne peut pas manquer de comparer les deux. Et d'ailleurs, dans la période structuraliste qu'on a connue au siècle dernier, cette comparaison était très centrale. L'idée qu'on pouvait comparer structurellement la langue, l'économie, la littérature, etc. Donc il y avait bien cette idée d'une homologie. Mais je crois que, et c'est ce que dit déjà Saussure, c'est que elle a quand même des limites. Il y a aussi des distinctions. Peut-être.
Alors on va y revenir, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que avec Saussure, Yaël Dosquet, on passe d'une langue où un mot vaut pour une chose signifiée à une langue qui serait une langue système, où c'est finalement la relation entre les mots qui détermine la valeur, avec cette idée que la valeur est effectivement centrale.
Oui, enfin, en fait, si vous voulez, qu'il y ait une homologie entre le langage et la monnaie, c'est somme toute pas surprenant quand on considère que... il y a quand même une asymétrie de niveau entre ces deux concepts, hein, parce que le langage, c'est un a priori des positivités. L'homme est un être de langage. La monnaie, c'est une construction du langage. Donc il est pas surprenant que des propriétés du langage se retrouvent en fin de compte et fonctionnent dans une de ces créations qui est la monnaie. Cela dit, les objets économiques ont eux aussi une substance spécifique qui relève d'un a priori des positivités spécifiques. Pour le coup, l'homme, c'est un être de langage, c'est aussi un être travaillant. Et il s'agit là de... C'est aussi un être vivant. Il s'agit là donc de trois a priori des positivités qui...
Il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que ces a priori des positivités.
C'est la condition inconnaissable, l'énigme qui apparaît, si vous voulez, au XVIIIe siècle, sur l'idée que, bon, il y a quelque chose, puisqu'on se pose la question de la nature humaine, il y a quelque chose dans l'homme... qui est a priori obscur et qui fait en quelque sorte fracture profonde, une finitude intrinsèque. Donc dans le langage, manifestement, l'homme ne maîtrise pas tout le langage, et a fortiori, on avancera peut-être l'idée tout à l'heure que le sujet lui-même ne précède pas le langage, mais est produit lui-même par le langage. Mais enfin, pour ce qui est du travail, il s'agit bien de la finitude interne à l'homme, hein, le fait que son temps ne soit pas infini, et puis il se pose la question des peines utiles et vaines.
Donc ce que vous dites, c'est que le travail, comme le langage et la monnaie, peuvent être mis en relation.
Ce sont des conditions de possibilité de la connaissance, ces a priori de positivité. Et donc, si vous voulez, la monnaie est entre cet espace où se déploie le problème économique, issu donc de la problématique du travail, et puis cet espace d'une problématique spécifique de l'être parlant.
Alors c'est intéressant de parler de la question de la valeur, comme on le disait à l'instant, parce qu'il va falloir voir historiquement comment est-ce qu'on a attribué une valeur à la monnaie, André Orléans.
Oui, juste pour revenir un peu en arrière sur votre question, c'est quand même une grande différence entre le langage tel qu'il est conçu par Saussure, tel que vous venez de le rappeler, c'est-à-dire comme un système de différence dans les mots, chacun se définissant, je suis pas un linguiste, mais enfin chacun se définissant par rapport, chaque mot par rapport à autrui, avec justement la valeur monétaire. Là, on a quelque chose de quand même très différent, parce que la valeur monétaire, elle est dans la monnaie. Il y a une puissance propre à la monnaie qui se définit quasiment, je dirais, évidemment, dans l'usage, dans les échanges, mais hors échange. Tandis que les mots, selon la linguistique saussurienne, ils se définissent dans la structure des autres mots. Donc, on voit ici déjà qu'il y a un premier type de différence. Alors, ça m'amène à votre question, c'est que la monnaie, elle, sa valeur, selon moi, sa puissance provient, on peut pour le dire simplement, de la confiance collective d'une communauté. Donc il faut penser à une communauté, d'habitude c'est les communautés nationales, donc une communauté, mais ça peut être pour les monnaies locales, les communautés locales, qui définit un signe comme étant le signe représentant la valeur. Donc il y a ce geste tout à fait essentiel dans la définition de la valeur de la monnaie, qui en quelque sorte, on pourrait même mieux dire, que la monnaie définit la valeur. C'est à partir de la confiance et de l'émission de la monnaie qu'on sait ce que c'est la valeur. La valeur, ça vaut quelque chose qui s'exprime en monnaie. La monnaie, ça vaut 1 et l'ensemble se définit par rapport à la monnaie.
Et dans cette vision, la monnaie va précéder la société marchande, ce qui s'oppose finalement à la conception de la monnaie chez les classiques, André Orléans.
Oui, c'est ça. Il y a une opposition, on peut dire, il y a évidemment, comme vous le savez, beaucoup de débats dans toutes les sciences sociales et dans les sciences économiques. Donc, il n'y a pas chacun a sa vérité. Donc, en effet, ma position, c'est que celle que vous énoncez. C'est-à-dire que je pense que ce qui est premier, logiquement, pas historiquement, conceptuellement, ce qui est premier, c'est la monnaie. Parce que c'est à partir de la monnaie que vous pouvez définir des prix. Hein, sinon, vous n'avez pas de prix. Et les prix sont absolument nécessaires au marché. Donc, c'est comme ça que je vois la logique. Alors que dans la logique, disons, libérale, l'institution première, fondatrice, c'est le marché. Et en fait, le marché, dans cette conception, a plus ou moins besoin de monnaie. Même à la limite, conceptuellement, on peut imaginer un marché de troc. D'accord. Donc, il y a, en effet, la position que je défends est très radicale et a beaucoup d'implications, de penser que c'est la monnaie qui est au fondement de l'économie.
On va revenir sur la conception libérale de la monnaie. On entendra tout à l'heure Friedrich Hayek notamment, mais je vous propose d'abord d'écouter une lecture extraite de la philosophie de l'argent du sociologue Georg Simmel.
L'argent garde aussi peu de valeur aux yeux d'un individu qui, pour une raison quelconque, n'attache aucun prix au bien accessible par son intermédiaire, qu'il ne saurait en prendre aux yeux d'un autre capable de se procurer les 10 biens sans son intermédiaire. Bref, l'argent est le moyen et l'expression de la relation et de la dépendance réciproque entre les hommes, de cette relativité en vertu de laquelle la satisfaction des désirs de l'un est toujours liée à l'autre et vice-versa. C'est pourquoi il ne trouve pas sa place là où ne s'exerce pas cette relativité. Soit qu'on ne désire plus rien des hommes, soit qu'on les surplombe d'une hauteur absolue en l'absence de toute relation avec eux, si bien qu'on peut obtenir sans contrepartie la satisfaction de tous ces désirs.
Ce que nous dit ici Zimel Yael Doske, c'est que la monnaie, c'est une institution sociale, c'est ce qui permet de créer la relation, une des relations au sein d'une société.
Oui, parce que la monnaie, c'est de la dette. La monnaie, c'est de la dette. Si vous voulez, pour poser un schéma simple, où apparaîtra nettement le rôle de la monnaie, et sur la base duquel on pourrait déployer la discussion, ce serait un schéma économique fondamental de la sorte. Il y a, au commencement, disons, un travail, une peine qui s'implique dans une production de marchandises. Ça constitue des moyens. Et la finalité de cette opération première, c'est la consommation de cette marchandise qui va générer un bien-être, une utilité, un plaisir. Donc à partir de là, on comprend que le consommateur est en dette à l'égard du producteur, puisque le producteur s'est donné de la peine et que le consommateur, lui, en tire plutôt un plaisir. Et l'extinction de cette dette, elle peut se faire sous différentes modalités. Un troc, une marchandise que le consommateur livrerait au producteur en échange. Un service rendu, donc ce serait du travail contre du travail. Ou alors l'extinction monétaire justement de la dette, c'est une livraison de monnaie, un paiement. Payer, c'est se libérer d'une dette. En l'occurrence, la monnaie ici, on peut l'entendre comme étant la dette d'un tiers souverain, d'autorité, crédible. L'idée, c'est que par exemple, la boulangère qui me livre une baguette de pain, elle n'a pas confiance si je lui promets de payer. Par contre, si Mario Draghi m'a promis de payer 10 euros, et c'est ce que représente un billet de 10 euros, eh bien, quand je donne ce billet de 10 euros à la boulangère, eh bien, c'est à maintenant à elle que Mario Draghi devra, cette valeur.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la confiance se renouvelle grâce justement à l'utilisation de ces signes monétaires comme moyen de paiement.
En effet, parce que le moment où la boulangère accepte ce bout de papier, somme toute, ce signe, comme le dit André Orléans, absolument arbitraire, il y a une opération de confiance qui est faite, mais en outre, il y a une opération mimétique. À savoir, elle va accepter cette monnaie précisément parce qu'elle sait que son fournisseur va accepter cette monnaie. C'est-à-dire qu'elle-même pourra se libérer de ses propres dettes grâce à ce signe-là.
Et en même temps, il n'y a pas toujours un équilibre parfait. La monnaie peut aussi provoquer des crises.
J'aimerais dire une toute dernière chose, c'est qu'il y a une ultime modalité d'extinction ou de non-extinction de la dette, justement, ce serait le gratuit, c'est-à-dire faire grâce. Donc là, on a une modalité esthétique d'extinction de la dette, et ça ouvre vers des problématiques du religieux, etc., voire éventuellement tout simplement le fait que la dette ne soit pas éteinte, comme par exemple dans des liens familiaux ou des liens sociaux fondamentaux. Mais là, je crois qu'André Orléans aurait beaucoup à dire.
Alors, qu'est-ce qui se passe, André Orléans?
Oui, juste pour réagir, parce qu'il faut quand même dire aussi ici que Simmel, donc dans son texte, La philosophie de l'argent, qui date de 1901, est un texte vraiment très très fort sur qui avance beaucoup de choses qui seront connues plus tard et qui seront vraiment développés plus tard. Donc c'est un texte très très important. Et en particulier, il développe quelque chose qui est très proche de ce qui vient d'être dit. C'est dans le texte lui-même de Simmel qui dit que la monnaie, c'est pour reprendre exactement ce qui vient d'être dit, la monnaie c'est une créance sur le tout, sur la communauté. Donc en effet, il a cette idée que d'abord il doit se constituer une autorité, la communauté, par exemple ça peut être la communauté nationale ou bien comme je disais dans les monnaies locales, des communautés locales. Elle peut produire des créances sur elle-même. Donc, quand j'ai de la monnaie, j'ai une dette sur la société. Je possède une dette sur la société. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai droit à tous les objets qui sont produits par les membres de cette société qui eux-mêmes adhèrent au signe monétaire. Donc, Simmel voit ça de manière très, très claire. L'autre point, excusez-moi, sur Simmel, dans le texte qu'on a entendu, il montrait bien aussi quand même que, si vous voulez, il faut pas avoir une espèce d'image mécanique, en quelque sorte, où la monnaie viendrait de l'extérieur et créerait les échanges. Non, il faut déjà que ce soit développé, un certain nombre d'échanges marchands, que ce soit développé de la production, pour que les liens se tissent et finissent par donner sens à la monnaie. Et c'est ça qu'il veut dire. Il dit, quand il dit au départ que c'est lié aux relations entre les individus, c'est que la monnaie est d'autant plus forte, si vous voulez, que les relations de production, la division du travail est forte entre les individus. Vous voyez bien que si vous prenez n'importe quel objet, quand vous l'achetez, n'importe quel objet, une bouteille d'eau ou pas, vous allez en fait utiliser les productions d'une multitude d'individus. Le transport, l'eau, le plastique, l'énergie, presque tous les membres de la société auront collaboré pour vous apporter cette bouteille d'eau. Donc la force de ces liens, évidemment dans les sociétés moins avancées, c'est moins vrai. Donc la force de ces liens explique la force de la monnaie.
Et qu'est-ce qui se passe alors quand la confiance dans cette monnaie se rompt, ou alors que la monnaie est en quelque sorte trop désirée et que du coup elle est trop thésaurisée?
Oui, en effet, il y a un certain nombre de pathologies monétaires. La monnaie n'est pas un objet stable qui resterait tel quel. Comme on l'a dit, la monnaie c'est de la confiance. Donc cette confiance, le plus souvent, elle est produite par les rapports sociaux, les groupes sociaux. Donc derrière, il y a des groupes sociaux. Dans le capitalisme, c'est le capital monétaire, financier, qui essaye de faire que sa monnaie soit conforme à ses désirs. Par exemple, vous savez aujourd'hui que la monnaie est créée centralement par les banques privées. C'est les banques privées qui créent de la monnaie en faisant du crédit. Donc il y a cette intégration très forte entre les intérêts des entreprises et la création monétaire qui sont adaptées parce que la monnaie n'est pas créée par l'État ni la Banque centrale, elle est créée principalement par les entreprises. Mais à plein de moments, il y a des tensions sociales et les acteurs ne sont vont pas être d'accord pour maintenir la même unité de compte. Si je peux donner un exemple, à la sortie de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de dettes publiques, énormément de dettes publiques qui ont été nécessaires pour financer la dette. Énormément de dettes publiques, ça veut dire que il faut avoir des impôts, des revenus fiscaux qui soient à proportion de ces dettes publiques. Et ça, ça conduit à des transferts massifs, en particulier sur les entreprises. Et donc, il y a un débat à ce moment-là parce que un certain nombre de couches sociales vont pas être d'accord pour rembourser exactement au même prix. Et comment on fait ? Eh bien, on déprécie l'unité de compte. Le franc a baissé du cinquième, le mark, lui, il a disparu, etc. Donc, on peut jouer, quand vous jouez sur l'unité de compte, vous voyez, c'est-à-dire la valeur du franc, vous jouez sur la quantité de dette que vous remboursez.
Et là, c'est une possibilité qu'ont les banques centrales.
C'est une possibilité qu'ont principalement les États, les banques centrales aussi. Aujourd'hui, même ça, c'est quand même principalement les États, parce que par exemple, la Banque centrale européenne ne peut pas modifier l'euro. D'ailleurs, c'est un autre système, il est déterminé par le marché. Mais à l'époque, c'est surtout le rôle de l'État de définir l'unité de compte. Donc la confiance est toujours en question. Dans les assignats, vous connaissez la période révolutionnaire, les assignats, on en a émis tellement que leur valeur s'est dépréciée, donc ça a conduit à des mouvements de rejet. L'État a voulu imposer absolument les assignats en disant si vous les acceptez pas, vous aurez la peine de mort. Et bien malgré ça, les acteurs n'aiment pas les assignats parce qu'ils préfèrent avoir de la bonne monnaie.
Sans donc, acceptation sociale, c'est la banqueroute.
Exactement. Il faut une acceptation sociale et cette acceptation sociale, on ne peut la comprendre qu'en prenant la configuration sociopolitique à un certain moment donné pour comprendre où sont les tensions les plus massives.
Et c'est pour ça que le rôle de l'État est essentiel, comme le disait André Orléans. Il y a une nécessité de la régulation publique et c'est d'ailleurs déjà ce que dit Georg Simmel au début du XXe siècle, Yael Dosquet.
Oui, par opposition à la situation des assignats, on pourrait par exemple relever l'exemple des greenbacks émis par Abraham Lincoln justement à la fin du 19e siècle aux États-Unis, qui a été au contraire
de quoi s'agit-il
un grand succès. C'est un système relativement similaire à celui des assignats. Hein. Il s'agit d'une émission fiduciaire, donc de billets de banque.
Mais qui, elle, a réussi à créer un climat de confiance.
Voilà.
Et André Orléans. On peut débattre de cette question. Parce qu'il y a quand même eu les greenbacks donc sont émis essentiellement pour financer la guerre de sécession. Donc après Lincoln et ensuite la question de la valorisation et du remboursement des greenbacks a fait l'objet de conflits sociaux très importants quand même. C'est-à-dire il y a des couches sociales qui étaient pour qu'on appelait les soft money, ceux qui étaient pour une monnaie douce, et ceux qui étaient hard money qui étaient pour une monnaie forte. Donc ceux qui étaient pour la monnaie forte voulaient supprimer supprimer les greenbacks pour que les paiements se fassent en monnaie forte, en particulier les créanciers, ceux qui possédaient de la dette, et les soft money, ceux qui étaient plutôt créanciers, débiteurs, excusez-moi, en dette, c'est-à-dire les fermiers, etc., préféraient garder les greenbacks, qui était une monnaie qui disait plus faible, mais dont ils disaient qu'elle avait des intérêts, elle permettait le développement économique, etc. Et donc, de 1866, au moment de la fin de la guerre de sécession, jusqu'en 1896, c'est 30 ans de débats extrêmement forts aux États-Unis autour de ça. Il est vrai qu'au moment où ils ont été créés, ça a été très utile, un peu comme les assignats, c'est-à-dire que sans ça, ils n'auraient pas pu mener la guerre de sécession, et ils avaient fait ça aussi pour la guerre d'indépendance avec une autre monnaie.
Parce que là aussi, on constate un point commun entre le langage et la monnaie, c'est le fait que ce sont des institutions de pouvoir dont l'accès est peut-être inégalement distribué, en tout cas c'est quelque chose qui peut se questionner, l'inégalité d'accès au crédit pour ce qui est de la monnaie, l'inégalité l'accès à la langue en tant que capital symbolique distinctif. Yael Dosquet, est-ce que pour vous, la bonne monnaie serait par conséquent celle qui résulterait d'un bon compromis social ?
De prime abord, je suis assez embarrassé face à la question de la définition d'une bonne monnaie. Par contre,
sur les inégalités d'accès,
un consensus social stable et cohérent, j'aime plutôt l'idée. Oui.
Mais vous êtes d'accord avec cette idée d'une inégalité d'accès à la monnaie comme au langage ?
Ah oui, alors ça, tout à fait. Par exemple, on trouve chez Cartelier une idée tout à fait passionnante. C'est celle des portes d'accès au système de paiement. Cette idée que, somme toute, c'est assez compatible avec une certaine conception, disons, standard et instrumentaliste de la monnaie, qui voit la monnaie comme un bien. Et aujourd'hui, bon, ça s'est développé, on voit ça comme un bien de réseau, donc on peut envisager une sorte de réseau de producteurs de confiance avec un cœur de réseau qui est de fort crédit et donc qui intégrerait les individus donc dans un domaine de crédibilité. Et l'idée de Cartelier, c'était que, somme toute, il y a trois portes, il y a trois manières de s'intégrer dans ce réseau. D'abord, la domesticité, c'est ce qui se passe à la maison, sous une modalité, disons, patriarcale. Donc ça implique un certain type de rapport de pouvoir. Le deuxième type de porte d'accès aux moyens de paiement, c'est le salariat, qui implique une subordination au nom de la propriété privée. Donc ça renvoie aussi à une certaine signification sociale, hein, au nom de quoi on exerce le commandement dans la société. Dans une société capitaliste, c'est au nom de la propriété privée du capital.
Et la troisième ?
Et puis la troisième, c'est la porte d'accès marchande, celle qu'on trouvera par exemple chez Valras dans sa vision d'une société constituée uniquement de marchands, hein, qui achètent et vendent.
André Orléans.
Sur cette question, il me semble que la question de la bonne monnaie ne peut pas se poser simplement, c'est ce qui vient d'être dit d'ailleurs, simplement au niveau monétaire. C'est-à-dire que la monnaie ne suffit pas à résumer en quelque sorte à elle seule toute la société. La société aujourd'hui est essentiellement une société capitaliste. Donc la bonne monnaie renvoie à l'idée d'un bon capitalisme. Donc c'est ça qu'il faut voir. Quelles sont les conditions d'un bon capitalisme si pour ceux qui peuvent croire à un bon capitalisme. Donc par exemple, on a vu, c'est vrai, un capitalisme des 30 glorieuses, si on prend celui-là, qui était effectivement moins inégalitaire, qui produisait plus de croissance, qui a permis l'élévation du niveau de vie. Et c'est vrai qu'il avait une forme de monnaie qui était distincte de la monnaie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la monnaie, c'est essentiellement une monnaie qui est aux mains, disons, pour aller vite, de la finance et de la banque centrale. C'est eux qui contrôlent la monnaie, alors que dans l'époque des 30 Glorieuses, la monnaie est beaucoup plus contrôlée par l'État, qui a son propre circuit monétaire, donc qui peut dépenser, qui n'a pas besoin d'avoir accès continuellement aux marchés financiers pour se refinancer. Vous vous rendez compte, il y a ce qu'on appelle le circuit du trésor qui permet d'engendrer des ressources de manière automatique, etc. Donc voilà.
Mais est-ce que la banque centrale ne joue pas aujourd'hui ce rôle-là? En l'occurrence, la Banque Centrale Européenne.
Elle joue quel rôle ?
De rôle de régulation et de tentative.
Ah bah oui, elle joue.
De redistribution égalitaire en injectant un certain nombre de liquidités sur les marchés.
Non, je dirais, on ne peut pas dire ça. Non, je ne pense pas. Elle a effectivement un rôle de régulation, comme toute banque centrale, mais elle régule par rapport à un régime. Je veux dire, par rapport à une idée de ce qu'est la bonne régulation. Avant, pour vraiment simplifier, si vous voulez, il pouvait avoir une monnaie dont la finalité était la croissance. Par exemple, disons, voilà, c'était un peu ça, ce qui se passait dans l'époque des 30 Glorieuses, et puis une monnaie aujourd'hui dont la finalité est le maintien d'un taux d'inflation en dessous de 2%, ou à peu près 2%. Donc on voit bien qu'elles peuvent réguler, mais que la régulation, comme elle renvoie à des objectifs qui sont différents, sont évidemment différents. Donc une bonne régulation dans un système qui est très lutté contre l'inflation, qui n'accepte pas les déficits publics, voilà, ça peut se questionner.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Thank you.
la musique de Jean Wiener, extraite du film Touchez pas au Grisby, sorti sur les écrans en 1954. André Orléans et Yaël Dosquet sont toujours avec nous pour parler de l'entrelacement de la monnaie et du langage. Un entrelacement dont la littérature s'est également fait l'écho. André Orléans, comment les réflexions sur la monnaie et sur le langage apparaissent-elles dans les œuvres littéraires ?
Je pense qu'elle est, elle apparaît... alors je suis pas un spécialiste de littérature, mais on voit bien quand même qu'à partir du roman, de ce que je connais du 19e siècle, les thèmes économiques chez Balzac, chez Émile Zola, etc., sont des thèmes qui deviennent des thèmes tout à fait centraux. Et donc je pense que de ce point de vue-là, la littérature va au même pas que la société. Et donc que ces motifs, la spéculation, le rôle de la spéculation, le rôle des faux billets, des vrais billets, le rôle de la valeur de la monnaie, de l'argent, de l'or, l'héritage, les dettes, etc., deviennent un enjeu romanesque extrêmement important. On pourrait dire une deuxième chose, c'est que l'individu dans le roman est souvent un individu, excusez-moi, je fais des généralités, mais enfin disons, est souvent un individu stratégique. Hein, c'est-à-dire qu'il a...
C'est un agent économique déjà.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme dans l'individualité de celui qui veut réussir, par exemple, et qui va donc avoir des moyens différents pour essayer d'obtenir son but. Il y a quelque chose qui ressemble, on peut dire, à l'homo economicus.
La réflexion sur l'argent et la réflexion sur la monnaie sont allées de pair, Yaël Dosquet, dans la littérature. On peut le voir, par exemple, au moment des questionnements autour de la monnaie or qui se sont traduits dans la littérature de l'époque.
Alors, je ne suis pas tout à fait spécialiste de littérature. Hein. Ma foi.
Mais en tout cas, cette réflexion sur la monnaie et cette réflexion sur le langage, elle se traduit à la fois chez les sociologues, les philosophes, les linguistes et les écrivains.
Alors, c'est probablement parce qu'il y a un enchevêtrement dans la problématique monétaire, il y a un enchevêtrement du nominal et du réel, et la littérature a largement pensé l'effet des mots sur les choses. Donc, si vous voulez, chez Gide, dans Les faux monnayeurs, il y a quand même une réflexion sur les personnages sont menteurs, tout ça, mais il y a une réflexion sur la figure du faussaire. Hein. Par exemple, écoutez, on pourrait envisager une unité de compte individuelle n'a pas de sens. Donc c'est vraiment une construction collective, une unité de compte. Hein.
Vous parlez des faux monnayeurs, alors j'en profite justement parce que je voudrais vous en faire entendre un extrait. Donc Les faux monnayeurs d'André Gide est paru en 1925 et donc Gide s'empare lui aussi de ce parallèle entre le mot et la monnaie. À vrai dire, c'est à certains de ses confrères qu'Édouard pensait d'abord en pensant aux faux monnayeurs et singulièrement au vicomte de Passavant. Mais l'attribution s'était bientôt considérablement élargie. Suivant que le vent de l'esprit soufflait ou de Rome ou d'ailleurs, ces héros, tour à tour, devenaient prêtres ou francs-maçons. Son cerveau, s'il l'abandonnait à sa pente, chavirait vite dans l'abstrait où il se vautrait tout à l'aise. Les idées de change, de dévalorisation, d'inflation, peu à peu envahissaient son livre, comme les théories du vêtement, le Sartor Resartus de Carlyle, où elles usurpaient la place des personnages. Voilà, donc c'est Édouard, l'un des personnages des faux monnayeurs, qui cherche à écrire un roman intitulé justement Les faux monnayeurs. Il en parle à son ami Bernard, qui lui montre alors une petite pièce de 10 francs.
Écoutez comme elle sonne bien. Presque le même son que les autres. On jurerait qu'elle est en or. J'y étais pris ce matin, comme l'épicier qui me l'a passé y fut pris, m'a-t-il dit lui-même. Elle n'a pas tout à fait le poids, je crois, mais elle a l'éclat et presque le son d'une vraie pièce. Son revêtement est en or, de sorte qu'elle vaut pourtant un peu plus de 2 sous, mais elle est en cristal. À l'usage, elle va devenir transparente. Non, ne la frottez pas, vous me l'abîmeriez. Déjà, l'on voit presque au travers.
André Orléans, ce qu'André Gide veut nous dire ici, c'est que finalement, le roman est comparable à une fausse pièce de monnaie.
Oui, c'est tout à fait intéressant cette possibilité en fait d'utiliser la métaphore monétaire pour penser la représentation et la représentation littéraire. On voit bien comment c'est adapté et comment puisque la question de la monnaie or, c'est la question de savoir si la monnaie, une vraie monnaie, exprime bien la quantité de métal. On voit très bien que ça peut être une métaphore de la littérature, dans quelle mesure le littérateur, l'écrivain va nous donner à voir la vraie réalité en quelque sorte. Donc,
avec l'idée que l'objet livre est aussi un objet matériel comme la pièce l'est.
Tout à fait. Mmh. Et donc c'est dans les faux monnayeurs, Gide joue beaucoup sur ça, sur une réflexion sur la représentation littéraire qui va trouver dans les mots de la monnaie son langage exemplaire parce que tout colle. D'ailleurs cette référence là qu'on vient d'entendre sur la fausse monnaie est tout à fait fondamentale puisque la question d'abord de la fausse monnaie, c'est que elle n'est fausse que pour autant qu'on sait qu'elle est fausse, parce que si elle circule, elle va circuler comme vraie. Donc il y a déjà une espèce d'incertitude sur la valeur par ce fait même. Et il y a une très belle idée qu'on vient d'entendre, c'est que donc c'est une fausse monnaie parce qu'elle a un revêtement d'or. Donc on croit que c'est une pièce de 10 francs or à cause de l'or, mais en fait il y a juste un revêtement d'or et en dessous il y a quoi? Il y a du cristal. Et donc l'idée que en quelque sorte, nous dit Gide, si on critiquait la littérature et la représentation sous la forme de la monnaie, eh bien, on arriverait à la transparence. En quelque sorte que ce qui nous est dit en sous-texte, c'est que la monnaie or, comme le roman classique, peut être un obstacle à quelque chose qui serait de l'ordre de la transparence, qui nous permettrait d'avoir accès, en quelque sorte, directement au réel.
C'est intéressant ce que vous dites, André Orléans, parce qu'on peut se demander si, effectivement, ce qu'essaye de faire ici André Gide, c'est de mettre en cause, finalement, la forme romanesque classique.
Oui, d'ailleurs, il le dit constamment. Donc, il y a un jeu... les faux monnayeurs, c'est tout un jeu sur qui écrit quoi et qui le lit. Hein. C'est le journal d'Edouard dans lequel il dit qu'il écrit un roman qui s'appelle Les faux monnayeurs, qui est lu par un etc. Donc c'est merveilleux, c'est une mécanique tout à fait absolue. J'ajouterais quelque chose quand même qui me paraît important dans cette histoire, c'est le contexte historique. On est en 1925, c'est-à-dire au moment justement de la crise du franc dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au moment où après-guerre, le franc paraît trop lourd et donc son contenu or doit être dévalué. Donc la question qu'il pose, cette question de la vraie valeur, du change, de qu'est-ce que ça représente, en fait, est une question dans laquelle baigne toute la population française à ce moment-là, puisqu'il va y avoir deux camps, ceux qui veulent revenir au franc d'avant 14 et ceux qui veulent dévaluer, et c'est ceux-là qui l'emporteront avec le franc Poincaré. Donc il y a quand même un élément de contexte important.
On voit que la littérature ici, en l'occurrence les faux monnayeurs, se font le reflet des préoccupations monétaires de l'époque, Yael Dosquay.
Oui, tout à fait. On peut considérer par exemple la crise inflationniste, hyper-inflationniste allemande de cette époque. Il y a manifestement un défaut quant au lien social par rapport à la République de Weimar qui est congénitale à cette crise hyper-inflationniste. Hein. C'est bien parce qu'il y a une sorte de défi par rapport à ce qui fait sens. Hein, et donc, de ce point de vue-là, du coup, chaque commerçant, si je peux me permettre cette espèce de projection microéconomique, chaque commerçant voyant un voisin augmenter ses prix va donner sens à cette augmentation de prix. Hein, c'est tiens, il augmente le coût, vraiment le coût. Je prends un coût, c'est-à-dire que moi qui devrais, je vends des baguettes, c'est un coordonnée qu'il faudra que je paye plus cher mes chaussures. Alors pourquoi ? Moi aussi, je vais porter un coût. Je vais augmenter le prix de ma baguette de pain. Et donc voilà.
Là, d'où ces phénomènes d'hyperinflation qu'on observe, on peut observer aujourd'hui, par exemple, au Venezuela ou dans d'autres pays.
Et c'est vrai que par leur violence, par le caractère vraiment incroyable de ces moments historiques, hein, où on voit des gens avec cette image, on voit des gens avec des brouettes de marque pour pouvoir acheter une baguette, ça a vraiment très, très frappé les esprits. Et c'est vrai que la littérature, en particulier la littérature allemande et même la philosophie, c'est a pris ce sujet et qui apparaît comme une crise généralisée du sens dans l'inflation. C'est une crise généralisée du sens qui est liée à sa dévalorisation parce que il est surproduit. Hein, il y a cette idée que cette surproduction du sens, à un moment donné, eh bien, finit par se retourner contre lui-même et conduit à cette crise de valeur. Donc, le lien est fait de manière à la fois chez Gide et du côté allemand entre la crise des valeurs et la crise de la monnaie.
Alors, cette conception de la monnaie fondée sur la confiance, n'est pas partagée par tous les économistes. On peut parler, par exemple, de Karl Menger, le fondateur de l'école autrichienne, qui lui propose une autre définition qui sera ensuite reprise par Friedrich Hayek. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, André Orléan, quelle est cette conception de la monnaie développée par Karl Menger?
Karl Menger, comme disons toute la pensée traditionnelle et classique, considère la monnaie comme étant essentiellement un instrument qui permet la circulation des biens. Donc qui n'a aucun rapport avec la valeur des biens. Hein, c'est ça leur idée centrale, c'est-à-dire la valeur des biens elle existe de par les vertus intrinsèques des biens, en particulier leur utilité.
Donc, c'est l'idée d'une monnaie neutre.
C'est ça. C'est l'idée d'une monnaie neutre qui ne sert qu'à faire circuler, à faciliter la circulation. Parce que le grand truc, c'est que chez les économistes, c'est que si vous n'avez pas de monnaie, vous êtes en troc et les échanges de troc sont abominablement difficiles parce que si je dois vous donner un stylo et que je veux une bouteille, il faut que je trouve quelqu'un qui veuille cette bouteille et me donne le stylo. Donc c'est la double coïncidence des besoins. C'est pas possible. Donc ils ont cette idée que la monnaie, en fait, c'est ce qui est très étrange dans cette pensée, qui est une pensée très raffinée du point de vue d'expression de la valeur, mais c'est que la monnaie est une espèce d'ajout neutre qui a en fait pas beaucoup d'effet. Et on se demande évidemment pourquoi on y fait tellement attention alors qu'on produit une théorie qui nous dit qu'elle est neutre et qu'elle n'a pas beaucoup d'effet.
Alors ça a été l'objet d'une controverse à l'époque, André Orléans, puisque Karl Menger va s'opposer à Gustav Schmoller, qui lui appartient à l'école historique allemande. C'est le Method and Straight, le conflit des méthodes en français. Sur quoi se fonde exactement leur désaccord, André Orléans?
On dit souvent aussi la querelle des méthodes, oui. Leur désaccord est très profond. C'est deux manières de concevoir l'économie. Pour aller vite, je dirais que il y a une première manière qui est la manière de l'école historique qui conçoit l'économie comme appartenant à l'histoire, comme des faits historiques. Donc il faut penser l'économie dans son institutionnalisation, dans les facteurs historiques qui la produisent à chaque fois spécifiques à telle ou telle situation. Donc ça conduit souvent à des monographies, etc., qui peuvent être un côté pas suffisamment théorique. Ils sont, mais voilà, c'est une optique, c'est la mienne. Je pense qu'en effet, l'économie est essentiellement historique et c'est ça qu'il faut penser. Et puis, il y a une autre conception qui est plus logique et théoricienne, qui est celle de la pensée marginaliste ou de Menger, par exemple. Donc, qui est beaucoup plus formalisée et dont, en quelque sorte, le modèle est complètement ahistorique. Le modèle, c'est une économie capitaliste ou marchande, hypothétique, abstraite, qui est pensée en tant que telle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Walras, par exemple.
Et la réflexion de Menger sur la monnaie va être reprise par Friedrich Hayek. On l'écoute.
Le problème, c'est que la monnaie n'a pas été autorisée à se développer davantage. Après 200 ou 300 ans d'utilisation de pièces, les gouvernements ont arrêté tout autre développement de la monnaie. Nous n'étions pas autorisés à la développer. Ainsi, la monnaie n'a pas été améliorée et elle s'est détériorée au fil du temps. Menger, et avant lui Hume et Mandeville, ont désigné la loi, le langage et la monnaie comme les trois institutions se réalisant spontanément. Heureusement, aujourd'hui, le droit et le langage ont été autorisés à se développer. La monnaie, elle, est restée dans sa forme initiale, figée dans sa forme la plus primitive. Pour les gouvernements, elle ne devait pas se développer indéfiniment et les gouvernements ont abusé de l'argent. Je me suis donc demandé si la politique monétaire avait déjà apporté de bonnes choses. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que cela n'a fait que du mal. C'est la raison pour laquelle je plaide maintenant pour ce que j'ai appelé la dénationalisation de la monnaie.
Alors, Friedrich Hayek soulève un certain nombre de points. Une première réaction,
ah oui,
Léon.
Il soulève beaucoup de points, comme Hayek est un très, très grand penseur. Et donc, il soulève beaucoup de points très intéressants. Alors, la première chose, vous noterez, c'est cette comparaison dont nous parlions au début de discussion sur langage, économie et loi. Hein, cette espèce d'homonologie que je vous disais qu'on trouvait à manière systématique, donc il la reprend. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'on retrouve ici à l'état pur la haine, en quelque sorte, des libéraux par rapport à l'État. Le fait que l'État, c'est toujours l'endroit où il se passe des défaillances, où les intérêts électoraux l'emportent sur l'intérêt général. Enfin, c'est vraiment le mal. Et donc, pour en venir au point central de ce qu'il veut dire, dans ce texte qui s'appelle La concurrence des monnaies en français et Denationalization of Money. Pourquoi il dit, qu'est-ce qu'il veut dire en disant que la monnaie n'a pas évolué? Parce que lui, il a dans l'idée qu'il y a une évolution nécessaire dont il se fait le porte-parole et le défenseur, c'est l'évolution vers des monnaies privées. C'est ça son idée. C'est qu'il faut enlever le pouvoir monétaire de l'État, qui évidemment s'en sert mal et au détriment du bien-être collectif, et qu'il faut faire en sorte que y ait des firmes qui émettent des monnaies privées, avec cette idée que la bonne monnaie, ce sera celle qui réussira à gagner la concurrence entre les monnaies privées.
Et avec l'idée aussi qu'il faut lutter contre l'inflation, parce qu'il écrit ce texte dans les années 70, précisément l'ouvrage donc pour une vraie concurrence des monnaies paru en 1976, et c'est un moment où il se dit les politiques monétaires ne réussissent pas à lutter contre l'inflation.
Absolument, exactement, c'est le point. Mais ça va avec sa critique de l'État. Pour lui, l'État, et la faute de l'inflation, c'est dans l'État. Pourquoi ? Parce que l'État est lié à des intérêts électoraux qui lui fait satisfaire ses clientèles grâce à du financement monétaire. Donc il y a trop de monnaie, donc il y a trop d'inflation. Donc effectivement, c'est l'inflation. Et son idée, c'est que les monnaies privées, ce seront des monnaies il a l'idée qu'il y aurait différentes unités de compte. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Les monnaies privées, se dire, moi, je fais une monnaie qui vaut tant de litres de pétrole, 30 kilos de tonnes d'acier ou bien un panier de monnaie. Donc, c'est des unités de compte différentes qui sont émises avec cette idée que celle qui va l'emporter, c'est tout le texte, c'est celle qui sera le plus stable. Parce que, dit-il, les acteurs, les ménages, ceux qui possèdent des dépôts, sont favorables à des monnaies stables.
Et donc la concurrence saine va s'exercer.
Exactement. La concurrence fera que si j'ai le choix pour mon épargne entre deux monnaies, je prendrai pas celle qui est inflationniste parce que je perds de l'argent, mais celle qui est stable. Le raisonnement me paraît tout à fait contestable. C'est pas aussi simple que ça.
Mais alors, comment expliquer que cette défiance, justement, des auteurs néolibéraux vis-à-vis de la monnaie, comment est-ce que vous l'expliquez ça, André Orléans?
Je l'explique parce que, justement, la pensée libérale est fondée sur le mécanisme de marché. La pensée libérale pense que le bon mécanisme, celui qui permet d'exprimer les intérêts privés de manière cohérente, conforme et légitime, c'est le marché. Or, la monnaie, quand elle s'exprime, elle est toujours une production de l'État et de l'autorité, puisqu'elle est sous l'autorité publique, etc. Donc, la monnaie est quelque chose que les libéraux n'aiment pas. C'est toujours le lieu d'un dérapage, c'est le lieu d'une insuffisance, d'une défaillance, parce que l'État va avoir besoin de se financer, parce que le roi, par exemple, au Moyen-Âge, va changer la valeur des unités de compte, etc. Donc, c'est le lieu d'une manipulation que va faire l'État, et donc, il faut absolument couper le lien de la monnaie à l'État, et c'est ce qu'on voit bien, d'ailleurs, dans l'indépendance des banques centrales. L'indépendance des banques centrales est vraiment issu de la pensée libérale par ce fait de dire que désormais la monnaie, eh bien, elle lutte simplement contre l'inflation, c'est des lois automatiques et les intérêts politiques ne sont plus en cause. Donc constamment, la monnaie par les libéraux, la bonne monnaie, c'est une monnaie muette, une monnaie qui ne parle pas, parce que la bonne chose, c'est qu'il faut laisser parler les marchés.
Yael Dosquet, sur cette opposition entre une monnaie muette, une monnaie neutre, par rapport à une monnaie politique qui, elle, dirait quelque chose des rapports de force qui existent dans la société.
Oui, justement, on pourra dire que chez les libéraux, il y a un déni, hein, des effets du nominal. Bon, en effet, chez Menger, à l'origine, hein, la monnaie, c'est comme le langage, c'est comme le droit, c'est une institution émergente. Une institution émergente des actions individuelles. Donc il y a un présupposé d'un sujet qui tombe tout armé de la cuisse de Jupiter, quoi.
C'est l'idée que les phénomènes sociaux sont des résultats involontaires des actions individuelles et des phénomènes sociaux comme la monnaie, justement. Ça, c'est ce que va développer plus encore ensuite Hayek, avec cette idée d'un ordre spontané.
C'est ça. Et il faut quand même dire que il faut reconnaître à Hayek d'avoir réussi son coup de force à cet égard. C'est à la fin des années 30 que quelque chose se passe. Familièrement, disons, il rentre en débat avec Keynes, qui, lui, pour le coup, avait avancé une idée très importante, c'était de prendre a priori le système économique comme étant a priori monétaire. C'est-à-dire, on s'en tient justement. Alors, ça ouvre la boîte de Pandore des croyances des agents.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la bonne tenue du système économique va dépendre, somme toute, non seulement de leurs anticipations, mais également d'un certain degré d'incertitude sur leur vision de la situation. Et l'idée, c'est que précisément, chez Keynes, hein, les agents, ils ont une préférence pour la liquidité. C'est une disposition psychologique à l'égard du temps. Hein, tel que les agents veulent détenir leurs avoirs sous une forme réversible. Donc c'est quelque chose de l'ordre du...
Tu dis qu'ils ne vont pas thésauriser et qu'ils vont consommer, André Orléans.
Oui, absolument. Oui, oui.
Et cette idée d'ordre spontané développée par Hayek, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'est vraiment fondamental, en effet, cette idée. Il la trouve, c'est intéressant de le voir, chez Menger, comme il vient de l'expliquer, c'est-à-dire le premier modèle d'ordre spontané, c'est le modèle de Menger pour montrer comment des individus, une société marchande où chacun produit dans son coin, va être conduit à accepter un signe monétaire dans les échanges et pas à échanger une marchandise contre une marchandise. Et Menger dit, c'est quand même bizarre, on comprend bien qu'on échange une marchandise utile contre une autre, hein, si je veux ça et ça, on gagne tous les deux, mais pourquoi échanger une marchandise qui m'est utile contre un signe ou bien même des pièces de métal dont je n'ai pas l'utilité. Donc c'est ça qu'il essaye de comprendre. Pourquoi est-ce que je passe par ce système? Et il montre comment en fait ça peut être rationnel de faire une chose pareille, parce que justement, si vous cherchez tout de suite l'autre monnaie utile, excusez-moi, je vais vite, c'est un peu compliqué, mais si vous cherchiez à passer directement à trouver le bien utile, en fait vous mettriez plus de temps que de passer par un bien intermédiaire. Et donc à partir de là, il montre que la société arrive à produire une monnaie. Et donc c'est vraiment le premier, je dirais, c'est 1892, hein, The Origin of Money, c'est le grand modèle de l'ordre spontané qui va reprendre, évidemment, comme vous le disiez, dans toute son œuvre, hein, c'est central dans son œuvre.
Yaldowski.
Oui, alors, donc Hayek, il rentre en débat avec Keynes dans les années 30, et pour le dire rapidement, il encaisse un échec assez cuisant. Hein. Keynes est un débatteur roublard. Et il se détourne de tout ce qu'il avait établi dans prix et production et tout ça pour se poser en 1937 un problème qui constitue littéralement un basculement épistémologique, qui retourne le problème économique, hein, à savoir il pose le problème qui est de comment un disparate d'agents séparés peuvent-ils se coordonner pour réaliser une allocation efficace des ressources. Donc il ouvre très explicitement à Hayek un problème communicationnel. D'habitude chez les libéraux, on va laisser faire. Pour le redire encore, le langage, ne serait-ce que le langage, c'est pas une surface neutre et sans plis. Il y a un impensé dans le langage.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. On va arriver vers la conclusion. Qu'est-ce que vous diriez, André Orléans, de la dématérialisation de la monnaie à cet égard? Qu'est-ce que ça a pu changer aux fonctions traditionnelles de la monnaie qu'on a pu expliquer pendant l'émission?
Alors, il y a une ambiguïté sur la question de la dématérialisation de la monnaie. Je soutiens que la monnaie est toujours abstraite, elle est toujours dématérialisée, parce qu'elle renvoie à une valeur abstraite, même quand les premières monnaies sont des monnaies métalliques. Mais les monnaies métalliques c'est l'histoire du signifiant dont on parlait au départ. C'est la substance du signifiant, mais c'est pas ce qui détermine le signe. C'est simplement sa matérialité. Et donc, évidemment, ça a des effets, hein, mais ça donne pas la valeur du signe monétaire. Je pense à un exemple. C'est comme si vous pensiez les plans, les maisons à partir du matériau. Évidemment, si vous construisez des maisons en bois ou en béton, ça va être différent. Mais la valeur de la maison, en quelque sorte, n'est pas complètement indexée sur la substance qui en est là.
Donc vous diriez, pour conclure, que ces fonctions demeurent malgré les évolutions monétaires auxquelles on peut assister aujourd'hui.
Absolument, c'est ça.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
Début demain de la 4e semaine de manifestation au Chili. Pas de solution malgré des annonces présidentielles. Les inégalités sociales ont-elles conduit le pays dans une impasse?
Eh bien en tout cas, les mesures sociales et fiscales annoncées dès la première semaine par le président n'ont pas satisfait les manifestants qui réclament toujours la démission de ce président Piñera, considéré comme un des symboles du système économique chilien libéral, mais surtout opaque et inégalitaire. Inégalité bien illustrée par deux chiffres, un taux d'inégalité donc bien supérieur de 65% à la moyenne de l'OCDE et un taux d'imposition de 15% inférieur, avec des services publics coûteux et une assurance publique déficiente. L'augmentation de 30 pesos du prix du ticket de métro n'a finalement été que l'étincelle sur la poudrière d'une accumulation de charges et de taxes. Situation paradoxale. Donc si le champion économique de l'Amérique latine a su faire sortir de la pauvreté 30% de la population en 30 ans, c'est cette classe moyenne qui se retrouve aujourd'hui asphyxiée par ce même système. En somme, deux pays dans un système, explique Ignacio Flores. Il est coordinateur Amérique latine au World Inequality Lab de l'École d'économie de Paris et chercheur à l'INSEAD.
En quelque sorte, si on regarde au niveau mondial, le Chili est vraiment, disons, dans le podium des pays les plus inégalitaires, à la hauteur de pays comme l'Afrique du Sud ou par exemple comme le Liban. Et quand on compare les données, en fait, on est assez proche. Et je dirais, oui, on est peut-être dans une sorte de plafond, je dirais, pareil avec d'autres pays comme le Brésil, si vous voulez, où les inégalités ont une tendance à rester plutôt stables, parce que je pense qu'au-delà de ça, c'est quand même très compliqué. C'est très difficile à imaginer. Aujourd'hui, par exemple, on a les 10% les plus riches de la population au Chili, mais c'est aussi valable pour les autres pays que j'ai mentionnés, qui récupèrent plus de la moitié du revenu national. 55% pour le Chili, par exemple. C'est énorme. Et au Chili, par exemple, le 1% les plus riches, selon l'estimation, on peut trouver entre un quart et un tiers de la richesse nationale qui est récupérée par ces gens-là. Et là, on parle juste de revenus, hein, parce que les inégalités de patrimoine sont bien entendu beaucoup plus importantes. En général, c'est presque le double des chiffres. Du coup, bien sûr, dans ce sens-là, il peut y avoir de la mobilité sociale, mais en fait, il y a une porte qui est bien fermée, qui est celle pour entrer, disons, dans le top 10% ou le 1% les plus riches. Et c'est là où ça devient vraiment très, très compliqué. Parce que là, je vous parle des chiffres de l'inégalité économique, mais il y a toujours une dimension qui est politique, de sexe, de race, de tout ce que vous voulez. Par exemple, au Chili, aujourd'hui, on parle de classisme. C'est comme le racisme, mais envers les classes sociales.
Le président Piñera a quand même procédé à un remaniement politique et remplacé notamment les ministres de l'économie et celui des finances, considérés comme des « durs » entre guillemets.
Et oui, Felipe Larraine qui avait lancé aux manifestants mécontents de la hausse du prix du ticket de métro qu'il, je cite, n'avait qu'à se lever plus tôt, sans effet jusqu'ici. Le nouveau Ignacio Briones met en tout cas en garde que la crise sociale ne se double d'un ralentissement économique. La croissance du champion chilien en octobre ne devrait atteindre que 0,5% au maximum, contre 3% encore en septembre.
On passe au brève, on ne skiera pas dans le Val d'Oise. Le projet d'Europa City, plus gros investissement de loisirs en France depuis Disneyland Paris, est abandonné.
Abandon pur et simple, dit l'Élysée, sur volonté du président de la République qui le juge daté et dépassé. Le projet de 3,1 milliards d'euros, cofinancé par une filiale d'Auchan et le groupe Vanda, prévoyait sur 430 000 hectares de terres agricoles, une salle de concert, un parc d'attractions, un hôtel de luxe, des pistes, une piste de ski. Il ne divisera plus après une longue bataille juridique et une bataille politique sur le nombre réel d'emplois, une fois déduits ceux qui sont détruits, estimés entre 7 et 10 000. C'est le politique qui a tranché. Le triangle de Gonesse se prive de 31 millions de touristes supplémentaires par an. Le Val d'Oise garde 6 agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y amusera pas. L'Élysée évoque un projet alternatif plus vaste. Et vous y reviendrez d'ailleurs demain, Tiphaine, lors de votre table ronde sur les banlieues.
Absolument. Merci beaucoup, Xavier. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Et on vous retrouve donc lundi. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're On se quitte avec Shae Design, Trampoline. Merci beaucoup André Orléans, Yael Dosquet de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur les chemins parfois obscurs de la linguistique et de la philosophie. Demain, après l'abandon du méga projet d'Europea City, alors que le chantier du village olympique vient d'être lancé en Seine-Saint-Denis, 4 mois avant les municipales, quel partage des richesses entre centre-ville et périphérie? On en débattra avec Marie-Hélène Baquet, Frédéric Gilly et Laurent Davezy. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.